Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Territoire en mouvement, une émission réalisée en partenariat avec Damien Saintès de Radio LEDEF. Bonjour Damien.
Bonjour Maëva.
Enregistré aujourd'hui dans nos locaux à Radio Pays d'Hérault et RPH Sud, nous recevons dans notre émission Marie Christiani et Claude Carceller. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Vous êtes respectivement responsable patrimoine à la communauté de communes Vallée de l'Hérault et vice-président à la culture et au tourisme, toujours du côté de la Vallée de l'Hérault. Alors vous l'aurez compris, c'est du patrimoine et de la culture dont nous allons parler aujourd'hui, et plus particulièrement d'un lieu assez important qui se trouve du côté d'Agnan, donc l'abbaye. Pour commencer, pour situer à toutes nos auditrices et nos auditeurs ce lieu, Claude, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu, enfin Claude et Marie bien sûr, l'histoire de cette abbaye ?
Alors l'histoire de cette abbaye, elle démarre il y a plus de 1200 ans, donc au bord d'un petit ruisseau qui s'appelle aujourd'hui le Corbière. C'est là que Benoît, donc Saint Benoît d'Agnan, a fondé une abbaye à l'époque carolingienne. Donc là on parle de la fin du 8e siècle vers 782. Donc une abbaye qui a eu une importance assez grande dans l'Occident médiéval, puisque c'est de là qu'est partie la réforme bénédictine qui ensuite s'est implantée dans tous les monastères occidentaux. Donc pendant quasiment tout le Moyen-Âge, tous les monastères suivaient la règle bénédictine réformée par Benoît d'Agnan. Donc voilà, c'est pour expliquer un petit peu l'ampleur de cette abbaye au Moyen-Âge. Donc cette abbaye s'est développée tout au long de l'époque médiévale. C'est d'ailleurs sous son égide, on va dire, qu'a été créée aussi l'abbaye de Gélonne à Saint-Guilhem-le-Désert. Donc voilà, ces deux abbayes sont devenues rivales à un moment donné, se sont séparées. Donc Gélonne n'a plus été sous l'influence d'Agnan et elles ont chacune suivi leur route séparément. Et donc l'abbaye d'Agnan ensuite a connu des vicissitudes, notamment avec les guerres de religion au XVIe siècle, où elle a été quasiment intégralement détruite. C'est pour ça que lorsqu'on est à Agnan aujourd'hui et qu'on est à l'abbaye, on ne voit pas de vestiges médiévaux. Les bâtiments que l'on voit sont postérieurs au XVIe siècle et aux destructions des guerres de religion. Donc au XVIIe siècle, on a une congrégation de moines, donc on les appelle les moines de Saint-Maur, qui se réinstallent à Agnan, qui voient que bon voilà, il ne reste pas grand-chose sur place, et donc ils achèvent la destruction des vestiges et reconstruisent intégralement une nouvelle abbaye. Donc voilà, les monuments les plus anciens qu'on voit aujourd'hui, ils datent de cette période de reconstruction au XVIIe, XVIIIe siècle. Ensuite arrive la Révolution française, et donc là, nouveau coup dur pour notre abbaye. Les moines sont obligés de partir, l'abbaye devient bien nationale, et elle est vendue en plusieurs lots à différents propriétaires. Au final, c'est un industriel montpelliérain qui s'appelle Farel qui rachète plusieurs lots et qui installe une filature de coton dans les murs de cette ancienne abbaye. Donc là, une première reconversion donc en manufacture avec une main-d'œuvre majoritairement féminine et avec donc des enfants. Et puis au fil du temps, cette manufacture de coton périclite un petit peu, et c'est là qu'entre en jeu le ministère de la Justice qui en 1845 installe une maison d'arrêt pour adultes dans les murs de l'abbaye. Et en fait, il y a une espèce d'accord qui est passé avec la filature de coton et les détenus travaillent pour la filature. Finalement, la filature se casse la figure complètement et le ministère de la Justice rachète tous les bâtiments pour en faire une maison d'arrêt pour adultes. Et cette maison d'arrêt sera transformée en colonie pénitentiaire pour mineurs donc à la fin du 19e siècle, en 1885. Et c'est à partir de là que commence l'histoire pénitentiaire pour mineurs à Agnan, puisque ça restera jusque dans les années 90, mais on va expliquer un peu le déroulement là, des dernières années. Donc jusque dans les années 90, le lieu demeure un lieu de détention, de placement pour les jeunes délinquants de toute la France. Et là, je vais peut-être passer la parole à Claude Carceller, qui donc, en plus d'être élu à la culture, à la communauté de communes, est un ancien éducateur de cette ISES. IPES, c'est le terme un peu compliqué pour désigner ce centre pour mineurs donc dans les années 70-80.
Ok, merci Marie d'avoir brossé aussi rapidement l'histoire de cette riche abbaye. Effectivement, si aujourd'hui on ne voit pas de traces tangibles de ce qu'a pu être l'abbaye, il y a des traces humaines qui sont aujourd'hui encore significatives sur Agnan, puisque beaucoup d'Agnanais ont travaillé au sein de l'ancienne, ce qu'on appelle colonie pénitentiaire, maison d'enfermement, etc., etc., puisque cette structure qui a eu son apogée lors de l'ordonnance de 1945 qui mettait les mineurs en danger, qui permettait de se placer parce que dans leur famille ou dans leur milieu, ça se passait mal. Donc il y avait une mesure d'éloignement qui était faite, et comme l'a dit très justement Marie, les jeunes de la région parisienne venaient à Agnan. Il y avait cette mesure d'éloignement et d'enfermement, puisque c'était un centre fermé, et les jeunes de chez nous montaient en région parisienne. Donc pour eux, c'était la double peine, ils avaient à la fois l'enfermement et la dureté du climat. Et donc les jeunes qui étaient placés à Agnan restaient en principe 2 ans. Pourquoi 2 ans? Parce que c'était l'année, la période pendant laquelle ils étaient en capacité de passer soit un CAP, soit un BEP. Ils avaient obligation d'être formés pour pouvoir, après, lorsqu'ils sortent, avoir des aptitudes à rentrer dans la vie active. D'ailleurs, lorsqu'ils étaient placés à Agnan, certains même, pendant les vacances, puisqu'ils sortaient que tous les trimestres, ils avaient, pour certains, des fois, se perfectionner. Soit c'est chez un entrepreneur, un maçon, un plombier, etc., etc. Ou alors, même pour se faire un peu la main, ou des fois un peu d'argent de poche, ils allaient faire les vendanges. Donc il y avait un lien avec, y compris, il y avait à l'époque des équipes de foot, de volley, d'athlétisme, et on allait jouer contre les équipes des villages environnants. Donc il y avait un souci d'essayer d'intégrer les jeunes à la vie de la région, des villages de la région. Donc c'était très 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 important, puisque il fallait pendant un trimestre les occuper. À l'époque, quand je suis rentré en 1973, il y avait à peu près 200 jeunes, donc c'était quand même assez important, une soixantaine de membres de personnel. Donc c'était quand même un lieu important où il y avait beaucoup de vie. Je l'ai dit, pas mal de gens d'Agnan y ont travaillé. Au passage, je salue les anciens collègues éducateurs ou profs techniques qui étaient là, ou les agents d'entretien, tout le monde a participé, ou les cuistots ont participé à cette vie. Et je dois dire que j'en garde un souvenir ému, parce que plein d'anecdotes remontent à la surface, et surtout des bons moments, même si ce n'était pas toujours très, très facile, parce que garder des jeunes enfermés pendant aussi longtemps, pour nous, il était important que nous fassions preuve à la fois de beaucoup de pédagogie, beaucoup de psychologie, beaucoup d'innovation pour essayer d'intéresser les jeunes à la vie et permettre d'essayer de réduire les tensions entre eux, parce que il y a toujours des tensions entre jeunes de ces milieux-là, et faire en sorte qu'ils vivent en harmonie. Donc voilà, c'était vraiment un lieu important, et personnellement, je trouve que je regrette qu'on ait aboli ce système, parce qu'à quelque part, à un moment donné, dans la vie d'un enfant qui est dans un milieu familial perturbé, qui est dans un milieu environnement où la délinquance émerge, quelquefois, c'est important de le sortir et de l'amener dans un endroit où il va se reconstruire. Et les centres qu'on a en Agnan étaient, c'était l'objet de cela. Et leur permettre surtout de tirer le meilleur de l'homme, notamment en leur donnant la possibilité d'avoir un métier. Après la fermeture de l'enfermement à l'époque qui s'appelait donc les ISES, donc c'était l'éducation surveillée, il y a eu effectivement la protection judiciaire de la jeunesse qui est venue, donc il y a eu beaucoup moins d'enfants et c'était beaucoup plus des jeunes du secteur aux alentours de Montpellier, Béziers, Sète, etc. Et après, progressivement, on a voulu mettre des centres au plus près du milieu où il y avait la délinquance, au plus près des parents. Et la difficulté qu'il y avait de ces centres, c'est que ces centres étant au milieu, ils étaient un peu harcelés par la délinquance qui tournait autour et posaient à la fois, il y avait des problèmes à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Difficile de protéger les mineurs dans ce milieu-là. Et donc, difficulté aussi d'avoir une relation éducative. Et lorsque pour discuter avec certains éducateurs, la relation est autant avant elle était difficile, mais là elle est compliquée. En plus d'être difficile, elle est compliquée. Et après, par la suite, nous avons, il y a eu en 1984-85, quand l'ISES a fermé, que l'IPS est arrivé, etc., avec une baisse de fréquentation. Avec un collègue éducateur qui était qui est devenu après par la suite mon beau-père, on a créé la base de plein air dont le but, la base de plein air était dans ce qu'on appelle dans les jardins du directeur, ce qu'on appelle les jardins du directeur, là où il y a les fameux jardins médiévaux, et dans l'ancienne infirmerie. Donc là, on recevait des jeunes de toute la France, y compris des détenus. De toute la France, puisqu'on travaillait avec toutes les villes où il y avait des structures qui s'occupaient des mineurs délinquants, mais aussi bien les Baumettes que Fleury-Mérogis, que Losles-les-Lille, que Lannemezan, que Nîmes, Montpellier, etc. Avec ces maisons d'arrêt, comme avec les maisons de la protection judiciaire de la jeunesse, le but, c'était la réinsertion des délinquants par les activités de plein air. Les activités de plein air étant un moyen de créer une relation qui va au-delà de la simple relation humaine, puisque le support qui est l'activité de plein air crée une sensation d'émotion. Avec ces sensations d'émotion, ça libère la parole, ça facilite la relation. C'est plus facile quand le gars est en difficulté sur une voie d'escalade, de lui tendre la main, la corde, de l'aider à passer ce cap, comme on est à un moment donné, le jeune a passé un cap de sa vie de délinquant. Et donc, de ce fait, la base de plein air a passé effectivement dans ses rangs beaucoup, beaucoup de jeunes, puisque c'était souvent des moments comme des flashs dans la vie des jeunes sur à peu près une quinzaine de jours. Il n'y avait qu'avec les détenus où le temps était beaucoup plus long, puisque ça se passait très souvent pendant les périodes d'hiver, périodes dites plus tranquilles pour les activités de plein air, où on faisait faire... Le principe, c'était de... soit de refaire des sentiers de randonnée, soit de faire des mares pour le gibier, on était en accord avec les chasseurs, soit d'ouvrir un milieu pour des plantations. Je vous prends un exemple. Après l'incendie de Montpérouse, Saint-Guyen, Saint-Jean-de-Fosse, où il y a eu 1300 hectares de brûlés, on a replanté 45 000 plants avec des détenus. Donc c'est quand même des actions fortes qui ont été faites et qui, dans la vie d'un délinquant ou d'un détenu, marquent, puisque quelque part, ils font des actions, des bonnes actions, quoi. Donc voilà, et en plus de ça, donc il y avait en gros deux jours de travaux et un jour d'activité de plein air, justement, pour continuer à faire ce lien. Donc je garde effectivement des souvenirs ému et fort de ces moments-là. Et je regrette bien sûr qu'effectivement ce lieu soit fermé, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, autant aujourd'hui on est dans la reconstruction ou l'amélioration de ce lieu à travers les travaux qui vont être faits, autant nous avons, nous, pendant des années, construit et amélioré la personnalité des jeunes par les actions éducatives que l'on peut... que l'on a pu faire.
Merci beaucoup Claude Carcelaire de nous faire cette historique qui est passionnant, hein, de voir tout ce qui a pu se passer entre ces murs. Mais comme vous venez de nous faire une magnifique transition, Damien, maintenant on va parler justement de la reconstruction du bâtiment.
Alors qu'on explique, en 2010, sous la présidence de Louis Villaret, la communauté de communes Vallée de l'Hérault rachète cette ancienne abbaye d'Agnan. 2025, autre date phare, c'est le début d'un grand projet de réhabilitation. On peut déjà parler un peu du côté, avant de voir concrètement les travaux, en quoi vont-ils consister, mais un peu la volonté politique, l'idée de racheter cet endroit et de le réinvestir, le restaurer. Claude ?
Oui, alors ce que je peux dire, c'est que l'achat de cette abbaye ne s'est pas fait aussi facilement que ça. Il a fallu effectivement convaincre les collègues qui ne voyaient pas toujours, mais ça se comprend très bien, hein, l'abbaye était dans un piteux état. L'État l'avait laissé se dégrader au fil des temps, puisque tout avait été pillé à l'intérieur. À partir du moment où elle a été fermée à l'activité éducative, activité humaine, il y a une autre activité qui s'est mise en place, c'est le pillage. Et tout a été pris à l'intérieur, les fils électriques, les portes, les robinets, tout ce qui était en cuir, etc. etc. Tout a été saccagé, les cloisons éventrées, etc.
En 15 ans à peine, parce que c'est 15 ans entre le rachat et en fait la fermeture du centre pour enfants et le rachat.
Donc c'est là, je, personnellement, et tous ceux qui ont connu le centre perçoivent ça comme une véritable plaie, qu'il y ait eu un abandon total de ce lieu historique au pillage. Et aujourd'hui, je le dis avec force et véhémence, aujourd'hui qu'on est en train de vouloir la restaurer, quelquefois on se heurte aux exigences de l'État pour la restauration de ce lieu, qui des fois nous demande un peu le mouton à cinq pattes, alors qu'ils ont laissé se dégrader, je pense aux toitures, il faut les refaire aux normes, etc., alors qu'ils ont laissé dégrader, et nous, c'est nous qui en ce moment payons les pots cassés. Mais au passage, je me permets, Daniel, excuse-moi, mais je prends un peu sur mon temps, pour dire que je salue quand même le courage des maires qui se sont lancés dans cette aventure, parce que c'est une aventure qui va durer sur plusieurs décennies, je dois le dire, parce que c'est coûteux, parce qu'on avait, je pense, un devoir par rapport à ce qu'a pu dire Marie sur ce qu'a été l'abbaye d'Agnan, sur ce qu'elle a apporté sur ce territoire en termes d'histoire, en termes de valeur. Hein. Elle a parlé de l'abbaye, mais c'est les ponts. Le pont du diable, c'est des moulins, c'est des fermes fortifiées, c'est des cultures, c'est tout un tas de choses qui ont été faites, puisque les abbayes les abbés de l'époque, c'était à la fois les conseillers généraux, les conseillers départementaux, c'était des préfets, c'était un peu tout. C'est eux qui régentaient et qui disaient ce qu'on avait à faire ou ne pas faire. Donc on leur doit un peu le berceau de cette civilisation.
Donc 2010, la volonté, c'est de sauver cette abbaye. 2025, la volonté, c'est de refaire de cette abbaye un endroit où l'on puisse vivre, créer des projets culturels, des projets patrimoniaux. Justement, des travaux qui vont débuter. Déjà, on peut expliquer, parce que l'abbaye, elle est très grande.
Oui, c'est grand.
Les travaux vont concerner qu'une part de l'abbaye, oui. Il va s'agir de quoi, juste, Marie ?
Alors, pour l'instant, donc, comme vous le disiez, l'abbaye, c'est très grand. Ça représente déjà 3 hectares de terrain et il y a plus de 21 000 mètres carrés de surface de plancher cumulé. Donc voilà, on a décidé de procéder par petits morceaux pour avancer. Et comme disait Claude, effectivement, ça va prendre plusieurs décennies, on espère le moins possible, mais voilà, ça va être assez long. Et donc là, on va démarrer avec ce qu'on appelle l'aile nord. Donc pour ceux qui connaissent l'abbaye, quand on rentre dans la cour d'honneur, c'est l'aile qui se trouve à droite et qui contient la chapelle, donc l'ancienne chapelle pénitentiaire de la colonie finalement. Donc c'est vrai que parfois par abus de langage on dit la chapelle de l'abbaye, mais quand le site était une abbaye, ce bâtiment n'existait pas. C'est un bâtiment qui a été construit à l'époque de la prison pour que les détenus puissent assister à la messe, voilà. Donc la chapelle pénitentiaire. Cette chapelle, on s'en sert déjà aujourd'hui comme salle d'événementiel pour faire des spectacles. Vous avez pu y voir le festival de théâtre de la ville d'Aniane, le festival des vins d'Aniane par exemple. Donc là, elle va garder cette fonction de salle événementielle, mais bien sûr dans de bien meilleures conditions qu'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui la salle est aux normes d'accueil du public, mais elle est largement dans son jus, ce qui lui donne un petit charme, mais bon. Là, on aura donc la salle d'accueil d'événementiel, également donc, des espaces d'accueil pour le public, avec voilà, banque d'accueil, billetterie, un espace où on pourra installer par exemple un traiteur un soir d'événement pour avoir une restauration sur place. On aura des loges, on aura des espaces de stockage, mais également des bureaux. Donc le service culture normalement rejoindra les locaux à la fin des travaux, donc on espère fin 2025, début 2026.
Oui, Claude, vous disiez que c'est maintenant à vous, la communauté de communes, de payer finalement cette réhabilitation, une réhabilitation qui va coûter cher pour cette tranche. Il a fallu trouver les financements. Ça représente combien de tels travaux?
Alors, j'ai les chiffres sous les yeux. La réhabilitation de la rénovation de la chapelle, c'est 2,4 millions. Donc, quand même, une somme assez conséquente. Mais bon, c'est un bâtiment qui est classé, donc avec toutes les exigences que demande l'État pour la restauration de ce lieu. Bon, l'État nous aide à hauteur de 33%, le départ en 7% et la région 2%. Puis le reste étant payé, bien sûr, par la communauté de communes. Donc, mais au-delà de ce financement, et c'est vrai que si on regarde l'ampleur qui reste à faire sur les 2 hectares à demi, hein, c'est ça Marie, de toiture à peu près. Donc ça veut dire qu'il y a effectivement, il faudra que la communauté de communes s'engage pas toute seule dans la restauration de ce lieu, parce que ça risque de prendre du temps effectivement et surtout beaucoup d'argent. Mais il faudra que, je pense, qu'on fasse un partenariat public-privé sur certaines choses pour que ce lieu vive, et puis surtout qu'il soit le plus en lien avec la ville d'Aniane, qui mérite aussi que ce lieu soit un peu plus accroché, puisque jusqu'à présent il était fermé, il est encore fermé, qu'il soit un véritable lieu ouvert qui permette aussi aux habitants et l'ensemble de la commune, mais l'ensemble des habitants de ce territoire, de pouvoir venir y vivre et y consacrer du temps. Moi, j'ai beaucoup d'espoir. Tout à l'heure, j'étais un peu pessimiste, mais j'ai beaucoup d'espoir dans cette restauration. C'est le premier pas, hein, cette restauration de la chapelle. Il y en aura d'autres, mais toutes les grandes randonnées commencent par un premier pas. Toutes les randonnées aussi difficiles, alors je peux dire qu'elles seront difficiles, mais elles sont très enthousiasmantes. Je pense qu'on y arrivera, parce que le lieu mérite. Et je pense très sincèrement que les moines de Saint-Guillain et d'Aniane, si c'était rivaux, nous aideront effectivement à restaurer ce lieu. Et j'ajoute une petite chose, c'est que tout à l'heure, Marie, une petite précision. Alors, je ne suis pas un spécialiste en la matière, mais Le mot d'Aniane vient de l'agneau, qui était l'ancien ruisseau qui traversait Aniane. Voilà.
Oui, c'est bien ça. C'est ça.
Je m'excuse, Marie.
Non, c'est ça. Aujourd'hui, c'est le corbière, mais initialement, c'était l'agneau.
Ce qui a donné son nom, effectivement,
à
Aniane. Donc, effectivement, voilà, beaucoup de projets en perspective. Demain, nous lançons la première étape, mais il y en aura d'autres.
Oui. Des travaux qui vont se poursuivre. Juste concrètement, les travaux, ils vont durer combien de temps de passer justement aux journées européennes de l'archéologie qui vont permettre de mettre en valeur ce magnifique édifice? Concrètement, c'est des travaux qui débutent en juin qui...
Alors, concrètement, on a la période de préparation de chantier qui démarre au mois de juin. Donc, les entreprises vont commencer à s'installer s'installer sur site. Donc, les travaux vont démarrer dans l'été et pour une durée de 12 à 18 mois. Donc on espère fin 2025, tout début 2026, une réouverture de la chapelle pour laquelle il faut qu'on concocte un petit programme.
Et oui, parce que l'abbaye n'est pas accessible au public hors événements spécifiques, oui. comme on en a parlé tout à l'heure.
Tout à fait.
Mais heureusement, grâce aux journées européennes de l'archéologie qui auront lieu les 15 et 16 juin, on va pouvoir investir ce lieu. Avant de rentrer dans la programmation, Marie Christiani, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui a été trouvé en termes d'archéologie sur place ?
Oui, alors... En fait, il y a eu des fouilles archéologiques programmées sur le site de l'abbaye d'Aniane entre 2011 et 2015. Donc, tous les étés, plusieurs mois, avec des dizaines de fouilleurs professionnels et bénévoles. Donc, moi, j'ai eu la chance de participer à ces fouilles archéologiques de 2012 à 2015, tous les étés, pendant mes études d'archéologie. Donc, ce qu'on a découvert sur le site, c'est principalement le plan de l'abbaye médiévale. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de vestiges médiévaux visibles sur le site à cause des destructions des guerres de religion. Et donc, on savait par les textes, par les sources historiques, qu'il y avait eu, dès l'époque carolingienne, une abbaye à Aniane, l'abbaye de Benoît, etc. Mais en fait, on n'avait aucune preuve tangible de son existence et aucune idée de comment était organisé le monastère à l'époque médiévale. Et donc, c'est ça que les fouilles ont permis de mettre en avant. Et on a retrouvé donc un complexe monastique avec plusieurs églises de périodes différentes, et notamment une grande abbatiale qui était donc l'abbatiale Saint-Sauveur, à côté de laquelle on a retrouvé les vestiges d'un cloître. Donc, on avait une abbaye qui ressemblait finalement à ce à quoi ressemble aujourd'hui l'abbaye de Gélonne à Saint-Guilhem-le-Désert, par exemple. Ça peut permettre de se faire une idée. Et ce qu'on a retrouvé d'important aussi dans ces fouilles, c'est un ancien cimetière accolé en fait à l'abbaye, puisque on a donc retrouvé des sépultures de moines, mais aussi de laïcs qui venaient se faire enterrer au plus près d'un lieu saint, d'un lieu sacré, parce que ça facilitait l'accès au paradis. Voilà, donc un grand cimetière avec de nombreuses sépultures et également des éléments de sculpture romane. Donc, à Saint-Guilhem, on connaît bien les très belles sculptures romanes de l'ancien cloître qui sont conservées au musée de l'abbaye donc à Saint-Guilhem, mais dont certaines sont aussi conservées à New York. Mais ça, c'est une autre histoire. Et donc à Aniane, en fait, on a découvert in situ dans les fouilles des éléments sculptés de très grande qualité, donc de la sculpture romane, qui permet de dire que, d'affirmer aujourd'hui qu'à Aniane, il y avait un cloître sculpté majestueux d'une qualité égale à celle de celui de Saint-Guilhem-le-Désert. Et d'ailleurs, les deux cloîtres ont été reconstruits au XIIe siècle, sûrement en même temps par les mêmes artisans, en tout cas les mêmes compagnies d'artisans.
Et on va pouvoir s'essayer aux techniques de l'archéologie sur place les 15 et 16 juin grâce aux Journées européennes de l'archéologie. Quels sont les objectifs de cette journée ?
Alors, les Journées européennes de l'archéologie existent depuis plusieurs années maintenant. C'est un peu moins connu que les Journées du patrimoine, mais ça commence à être bien connu du grand public. L'objectif de ces journées, c'est de proposer gratuitement au public pendant 2 jours des animations pour donc découvrir les techniques de l'archéologie et les sites archéologiques. Donc nous, à cette occasion, on ouvre les portes de l'abbaye qui, comme vous le disiez, est rarement ouverte au public. Et donc là, on propose au public des visites guidées pour découvrir l'histoire du site. Donc là, des visites guidées qui sont un petit peu axées sur les découvertes archéologiques, justement, et moins sur la période pénitentiaire. Ça, on en parle plutôt pendant les journées du patrimoine. On propose aussi aux enfants des ateliers petits archéologues pour s'initier à la fouille archéologique. Donc là, en fait, on a un bac de fouille qui permet aux enfants de tester les méthodes de l'archéologie et de se mettre dans la peau des archéologues pour savoir comment vivaient les moines au Moyen-Âge. Et depuis l'année dernière, on propose un nouvel atelier sur les jardins monastiques médiévaux. Donc là, c'est un atelier grand public à faire en famille. Ça peut être autant pour les adultes que pour les enfants, pour découvrir les plantes qui étaient cultivées dans les monastères du Moyen-Âge. Et voilà, c'est un atelier sensoriel avec des choses à sentir, à goûter. Et puis, on fait une petite recette à la fin. Bon, je ne vous dévoile pas le nom de la recette. Il vous faudra venir voir pour découvrir ça sur place.
Comment ça marche ces ateliers? C'est sur inscription?
Oui, alors tout est sur inscription. Vous pouvez aller sur la billetterie de l'Office de tourisme Saint-Guilhem, Vallée de l'Hérault, et vous inscrire. Donc c'est gratuit, mais voilà, sur inscription, parce qu'on a un nombre de places limitées pour certaines activités. Et voilà, donc on vous attend nombreux les 15 et 16 juin prochains.
Tout à fait. Merci beaucoup. On peut retrouver le programme en ligne, j'imagine.
Oui, sur le site internet de la communauté de communes et sur nos réseaux sociaux, on fera régulièrement des posts, notamment sur Facebook.
Merci beaucoup à tous les deux. C'était Marie Christiani, responsable patrimoine à la communauté de communes Vallée de l'Hérault, et Claude Carceller, vice-président à la culture et au tourisme. Rendez-vous donc 15 et 16 juin pour les Journées européennes de l'archéologie à l'abbaye d'Agnan. Merci Damien.
Merci Maëva.
Et on se retrouve très bientôt sur les ondes de Radio Lodève, Radio Pays d'Hérault et RPH Sud.